Père, nous allons ouvrir ta parole. Et nous venons encore une fois te demander que dans ton amour, par le Seigneur Jésus, tu ouvres nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions discerner les merveilles que tu as à nous dire ce matin. Possède-nous entièrement par ton esprit et que ce que tu as voulu nous enseigner par ces lectures nous soit réellement profitable et nous habite dès maintenant et jusque dans l'éternité. Amen. Vous n'avez pas eu trop de peine à trouver vos ateliers. Je n'ai peut-être pas assez parlé au sujet de ce que peut être un animateur. Je voudrais bien que vous compreniez que ça va changer chaque fois et que vous êtes peut-être tous appelés tôt ou tard à le devenir. Ce n'est pas celui qui dirige tout, mais c'est simplement celui qui contrôle un peu pour que vous restiez dans le sujet, parce que quelquefois, quand l'un ou l'autre commence à parler, il peut sortir du sujet et arriver à raconter peut-être plusieurs histoires personnelles, et ce n'est plus directement le texte que vous étudiez. Alors, vous cherchez toujours à revenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience personnelle à apporter, mais vous essayez toujours de revenir au texte, et puis de donner à tous la possibilité de s'exprimer. Non pas de forcer quelqu'un de s'exprimer, parce que si quelqu'un n'a rien à dire ou ne veut rien dire, eh bien, n'essayez pas de le provoquer, n'insistez pas. C'est le Seigneur qui doit remplir nos cœurs, et c'est lui aussi qui doit ouvrir nos bouches. Et si elle ne s'ouvre pas la première fois, elle s'ouvrira peut-être la seconde fois. Mais il faut que tout soit naturel. Eh bien, voici ce matin du 12 décembre 1981. Nous allons vous apporter ce premier exposé sur ces trois vocations prophétiques, Ésaïe, pour commencer. Mais je vous dirai tout de suite que ces messages auront la force d'un témoignage. Que je vous parle d'Ésaïe, ou que je vous parle de Jérémie, ou encore d'Ézéchiel. Le choix d'Ésaïe, par exemple, qui veut dire « le salut vient de l'Éternel » ou « le salut de l'Éternel », je l'ai pris pour cette première raison, parce que c'est par ce prophète-là qu'à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré d'une façon vivante et personnelle le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Et c'est depuis ce moment-là que, il y a 50 ans cette année, je puis dire que je possède en Jésus-Christ mon salut. Et c'est par le livre du prophète Ésaïe que j'ai été amené à une conversion réelle. Quant à Jérémie, eh bien, je vous le dirai ce soir, c'est le prophète de ma vocation. 5 ans après ma conversion à Jésus-Christ en Suisse, eh bien, le Seigneur m'a appelé et m'a parlé alors que j'étais en Italie et que j'avais 19 ans. Et s'il n'y avait pas eu le prophète Jérémie, je ne serais pas au milieu de vous aujourd'hui pour continuer mon ministère, certainement pas. Quant au prophète Ézéchiel, vous allez me dire, bah alors à quel âge est-ce qu'il a trouvé quelque chose dans Ézéchiel? Bien, je reviens en arrière, parce que entre 14 ans et 19 ans, j'ai été gravement malade. Et c'est dans cette maladie, à 15 ans, que le prophète Ézéchiel a été employé par le Seigneur pour me montrer que je devais lire l'Écriture, m'en nourrir, et ne pas m'arrêter même à certaines difficultés que je semblais trouver dans ce premier chapitre d'Ézéchiel qui sera notre méditation demain. Et je me souviendrai toujours, j'étais dans une clinique à Lausanne, c'était en 1932, dans l'hiver 32, quand le Seigneur m'a dit, tu n'as pas encore lu Ézéchiel. Oh, j'avais lu un peu, oui, comme je vous disais hier, comme une chèvre qui mange un peu ici, un peu là, il y a des beaux passages dans Ézéchiel, alors on les connaît, les passages sur le berger, la brebis perdue, ce que le Seigneur fera pour la brebis, mais je n'avais jamais lu depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 48, le prophète Ézéchiel. J'avais 15 ans, je me vois encore dans ce lit, dans une clinique près de la gare de Lausanne, en demandant à Dieu, éclaire-moi et donne-moi le goût de lire ce prophète Ézéchiel sans m'arrêter à ce qui pouvait me heurter. Et vous n'avez quand même pas toujours besoin d'imiter tout ce que le prophète devait faire. Et puis surtout, quand vous avez cru lire une certaine chose, relisez une seconde fois et vous serez moins scandalisé. Parce que la première fois qu'on lit dans Ézéchiel un certain chapitre, on se dit, mais c'est épouvantable, ce que Dieu lui dit de manger son pain mêlé avec des excréments humains, c'est pas croyable, hein. Et puis c'est inspiré de Dieu. Puis quand vous relisez, vous voyez que c'est pas tout à fait cela, c'était de manger son pain cuit sûr, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, on voit que les excréments humains sont mis de côté, et c'est de la bouse séchée d'animaux et qui est employée comme combustible. Mais quand nous allons ensuite dans ces pays, eh bien on voit que même la bouse séchée est récupérée pour servir de combustible. De sorte que nos premières réactions, nous devons les corriger. Et c'est par une relecture de l'Écriture que nous arrivons à comprendre le sens profond de tout ce message. Alors c'est pour cela que je vous dis, ces trois vocations me touchent d'une façon particulière. Nous ne pourrons pas tout envisager, mais je voudrais au moins que ce que le Seigneur a pu m'en donner à moi vous donne le goût de lire non seulement des textes du prophète Ésaïe, mais de lire tout le prophète Ésaïe, depuis le commencement à la fin. De prendre une fois sur vous, je veux lire ça, et puis vous prenez une feuille de papier, vous écrivez les versets d'abord qui vous font du bien, vous pouvez écrire sur une autre page ceux que vous ne comprenez pas, et puis vous y reviendrez, et petit à petit, la lumière se fera, et vous serez de ceux qui discernent que, malgré tout ce qu'on a dit sur ce prophète Ésaïe, eh bien, qu'il y a une unité merveilleuse dans ces 66 chapitres. J'espère aussi que vous lirez Jérémie d'un bout à l'autre. C'est un prophète qui parle dans un autre temps, qui a une vocation dans un autre temps, qui n'a pas une vocation qui est très, très heureuse parce qu'il doit toujours prêcher sans voir du fruit, sans voir des résultats, et la question c'est de savoir si on a été appelé. Ce qui me donne l'assurance que je suis appelé par le Seigneur à le servir, ce n'est pas les résultats que j'ai dans mon ministère. C'est d'avoir été appelé, qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien. De sorte que si vous êtes un homme appelé dans un temps qui est semblable à celui de Jérémie, vous n'allez pas vous décourager parce que vous ne voyez pas la semence germer dans les cœurs. La question, c'est que vous soyez fidèles. Et l'on saura qu'un prophète a été dans ce pays-là, qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien. Mais si après 23 ans de service, comme vous le verrez dans Jérémie, il n'y a pas de fruit, vous n'allez pas vous pendre pour autant. Pas du tout. Parce que vous verrez que le prophète Agée, qui lui est suscité dans un tout autre temps, mais en 23 jours de prédication, il provoque un réveil. En 23 jours, Agée a un réveil magnifique dans cette terre d'Israël, tandis que Jérémie, en 23 ans, il ne voit rien, il n'y a rien qui soit réellement produit pour l'encourager. Alors, la question pour nous, c'est pas qu'il y ait simplement des fruits, parce qu'est-ce que c'est encore des fruits? Le vrai fruit de l'esprit, vous savez bien que c'est pas des choses que vous aurez faites. Le fruit qui doit être manifesté dans votre vie, c'est l'amour, la joie, la paix. Cet ensemble de toutes les grâces dont parle Paul dans l'Épître aux Galates et qui donne aux croyants cette personnalité attrayante dans laquelle le monde peut reconnaître quelque chose du Christ. Et donc, revenons maintenant à ce prophète Ésaïe, dont le nom veut dire « le salut vient de l'Éternel ». Si je l'ai pris, eh bien, c'est parce que pour moi, en quelque sorte, puisqu'il est le prophète de ma conversion, on pourrait dire que c'est le plus grand dans un sens, le plus grand des prophètes. Mais si vous lisez l'Écriture, vous apercevrez qu'après les livres de Moïse, celui du prophète Ésaïe est certainement le plus important dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Vous avez lu le Nouveau Testament. Alors, si vous avez lu le Nouveau Testament et que vous me dites, mais moi, j'ai jamais lu le prophète Ésaïe, je me dis, mais comment lise-t-il le Nouveau Testament? Puisque dans le Nouveau Testament, combien trouvez-vous de fois la mention d'Ésaïe? On n'est pas à Jérusalem pour la grande séance des questions bibliques, hein? Mais les Juifs répondraient tout de suite, même les Juifs, parce qu'ils savent, ils ont lu aussi le Nouveau Testament. Eh bien, il y a plus de 210 fois la mention du prophète Ésaïe dans le Nouveau Testament. Et les chapitres 40 à 46 du prophète Ésaïe, de ce qu'on appelle dans certaines écoles de théologie le deuxième Ésaïe, eh bien, les chapitres 40 à 46 sont mentionnés plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que nous disons aussi que c'est un grand prophète? C'est le prophète qui couvre aussi la plus longue période de temps. Il a prêché durant le règne de combien de rois? Est-ce que vous avez remarqué? 4 rois. Il a prêché donc sous les règnes de 4 rois de Juda, le roi Ozias. Alors immédiatement, quand vous lisez cela, qui c'est cet Ozias? Vous savez qui c'est cet Ozias? Ésaïe a prêché au temps du roi Ozias, puis même la mort du roi Ozias. Il est mort comment? Ça vous intéresse pas la maladie des autres? Oh, c'est ma mort qui m'intéresse. Très bien, très bien. J'espère que Dieu vous a déjà révélé de quelle mort vous glorifieriez le Seigneur. Parce que je crois que c'est important. Nous n'attendons pas la mort, mais si nous devions mourir, nous devrions au moins demander au Seigneur que notre mort le glorifie. Parce qu'il y a des morts qui ne glorifient pas le Seigneur, même chez les chrétiens. Alors demandons à Dieu que nous ayons une mort qui glorifie le Seigneur. Je ne vous souhaite pas d'être crucifié la tête en bas comme la tradition le dit au sujet de l'apôtre Pierre, qui a reçu justement, lui, la révélation de quelle mort il glorifierait Dieu. Et je suis persuadé que nous devons non seulement glorifier Dieu dans notre vie, mais si le Seigneur n'est pas revenu avant notre mort, que notre mort aussi soit à sa gloire. Alors, Ésaïe a donc prêché au temps d'Ozias. Ozias est mort, lépreux. Oui. Et pourquoi? Il faudra voir cela. Alors, vous lisez, vous êtes obligé, quand vous lisez Ésaïe, vous êtes obligé d'aller lire une autre partie de la Bible. Moi, c'est ça que je trouve passionnant. C'est mieux que les mots croisés.
Mais je vous promets, vous ne savez pas faire, vous vous embêtez, vous commencez à lire. Et puis, voilà, alors, qui est cet Osias? Alors, vous cherchez, achetez-vous une concordance, si vous voulez, mais la plupart du temps, vous avez des références dans vos Bibles. Alors, vous allez dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, 26, versets 1 à 21. Et voilà que vous devrez lire tout ce chapitre pour savoir qui est Osias, mais ça sera passionnant, mais je ne peux pas, moi, vous le lire maintenant. Mais c'était un roi qui marchait selon le cœur de l'Éternel. Il a bien marché fidèlement pendant des années et des années. Mais il y a quelque chose qui va vous intéresser et qui m'instruit, moi, personnellement, c'est que à un moment donné, quand on a très bien marché avec le Seigneur pendant de longues années, on est en danger. Je lui dis, mais non, alors. Parce que le Seigneur ne va pas se souvenir de toutes les belles années qu'on lui a données. Et c'est justement, si vous lui avez donné quelques belles années, faites attention de ne pas tout gâcher à la fin de votre existence. Vous voyez ce qu'il est dit dans le chapitre 26. Je voudrais seulement vous donner des jalons, mais vous donner le goût de pénétrer dans l'Écriture. Tout le peuple de Juda prit, c'est donc page 476 pour ceux qui ont la Bible second habituelle, mais sans ça c'est dans d'autres pages, ceux qui ont la Tob, etc. Chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques, c'est pas dans le Nouveau Testament, hein, mais je crois pas que j'ai du souci à me faire ici. Mais quelquefois, vous savez, c'est pas drôle, hein. Les gens cherchent l'épître aux Hébreux dans l'Ancien Testament, et puis le Lévitique dans le Nouveau. Mais il faut comprendre, ils n'ont jamais lu la Bible souvent, hein. Alors il faut leur montrer, comme on prend un atlas de géographie, on leur enseigne comment s'en tirer. Alors, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amadia. Osias rebâtit Éloth, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et presque toujours, quand le nom de la mère est nommé, c'est pour nous montrer ce qu'elle a pu être pour son fils. Et on peut penser que Jécolia était une femme de Dieu qui a enseigné son fils, qui a consacré du temps à son fils, et son fils a marché dans les voies du Seigneur. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amasia son père. Donc il a eu le privilège d'avoir une mère et un père fidèles au Seigneur. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il y avait donc là un prophète, un homme de Dieu, qui a eu une grande influence sur ce roi. Il avait l'intelligence des visions de Dieu, ce Zacharie. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, Osias a eu un magnifique règne. Et je passe sur tout ce qu'il est dit. Verset 15, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Vous voyez que Dieu est intelligent, il peut même donner aussi des conseils à un ingénieur, et destiné à être placé sur des tours, sur des angles, pour lancer des flèches, des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et puis c'est ça. C'est là que ça devient dangereux, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Alors, lisez maintenant le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, qu'est-ce qui est arrivé à ce pieux roi? Son cœur s'éleva. Et vous savez, pour les serviteurs de Dieu, c'est la même chose. J'entends toujours un vieux serviteur de Dieu me dire de quelqu'un d'autre en Suisse, quand il était petit à ses yeux, il était grand. Depuis qu'il est devenu grand, ce qu'il est petit. Et c'est pas drôle ça, hein, mais c'est vrai. Que Dieu nous garde de nous élever à nos propres yeux, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Ou bien alors, vous voyez ce serviteur de Dieu faire une chute retentissante, qui démolit pour ainsi dire, tout son ministère, ou bien c'est la mort, il est enlevé, Dieu le préserve en l'enlevant de devant le mal pour qu'il ne s'élève pas plus haut, ou alors il y a des fois des épreuves. Nous ne jugeons pas, mais je vous dis, quand je lis la parole, j'essaie de me dire, qu'est-ce que le Seigneur a à me dire? Eh bien, l'histoire de Josias me parle. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, en faisant quoi? Il est allé au bistrot. C'est ça que vous avez lu? Il entra dans le temple. Mais comment est-ce qu'on peut pécher en entrant dans le temple? Il est entré dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il a dépassé la mesure de foi qu'il avait. Ce n'était pas à lui. La royauté et la sacrificature étaient séparées. Et ce n'était pas son rôle. Il était roi sur Israël, mais il n'avait pas à être sacrificateur. Et quand on sort de la position que le Seigneur nous a confiée, parce qu'on pense, mais ça sera encore mieux si le roi est prêtre, eh bien, nous péchons contre l'Éternel. Et alors, il a été averti, mais il n'a pas écouté. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, parce que, vous savez, s'opposer à un roi qui est bien vu de tout le peuple, c'est pas drôle, hein. Eh bien, ils ont été courageux. Et je recevais une lettre l'autre jour d'un ami qui me dit, il y a si peu d'hommes qui ont une colonne vertébrale dans le peuple de Dieu. C'est un catholique qui me dit ça, oui. Il y a si peu d'hommes qui ont une colonne vertébrale dans le peuple de Dieu. Et c'est vrai. Il nous faut des hommes courageux qui savent s'opposer même à quelqu'un de, qui est en vue. Et lui dire, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel ton Dieu. Voilà des hommes qui aiment, hein, et qui aimaient leur roi, mais qui s'opposaient à quelque chose qui était faux. Et la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Vous voyez, quand la colère commence à prendre un serviteur de Dieu, même qu'il soit roi, hein, c'est jamais bon. Il ne faut pas dire, oh, j'ai des saintes colères. Moi, je me mets en colère, mais je ne pêche pas. C'est seulement des saintes colères. Celle que j'ai contre ma femme, c'est toujours des saintes colères. Allez lui demander. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et il, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, qu'est-ce qui est arrivé? La lèpre. Hein, ça va vite. Ça vous fait penser à qui? C'est arrivé aussi à une femme, ça. La sœur d'Aaron, Marie, chapitre 12 des Nombres, parce qu'elle contestait contre son frère Moïse, avec Aaron. Et puis c'est arrivé encore à qui? Géasi, on en a parlé, je vois que vous conservez quand même dans vos cœurs la parole. Géasi, le serviteur de quel prophète? Élisée, qui courait après quoi? Après du fric, après l'argent. Hein. Alors, que le Seigneur nous garde de tout cela, hein, la lèpre, et de voir quand la lèpre pourrait nous atteindre. La lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs de la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta. Vous voyez, lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Alors, vous voyez, l'année de la mort du roi Osias. Vous avez commencé votre lecture ce matin, je pense, par ce chapitre 6. Alors, vous voyez que maintenant vous commencez à comprendre les Écritures. Comprends-tu ce que tu lis? Mais voilà pourquoi, pour comprendre ce que nous lisons, il faut sonder les Écritures. Il faut aller d'une place à l'autre. Quand vous faites des mots croisés, eh bien, vous allez voir sur les colonnes horizontales ou verticales si ça correspond. pont, etc., vous perdez un temps fou. Enfin, je ne dis pas que c'est mauvais, j'aime mieux que vous fassiez des mots croisés qu'autre chose. Mais enfin, vous prenez un dictionnaire pour contrôler si ce mot existe. Eh bien, pourquoi ne liriez-vous pas la Bible avec intelligence et aussi avec passion, en aimant, en recherchant vraiment ce que le Seigneur a à vous dire? Parce que c'est dans sa parole qu'on rencontre le Seigneur. Alors, les restes d'Ozias, les premières actions et les dernières. Vous voyez, il y a les premières, puis il y a les dernières. On retournera à l'Apocalypse, là. Je connais tes œuvres, les premières et les dernières. Et nous voudrions bien que les dernières dépassent les premières. Il ne faut jamais nous dire, oh ben, on en a assez fait. D'abord, ce n'est pas pour notre salut, ça. C'est pour la gloire du Seigneur. Les œuvres, si on les accomplit, c'est pas pour être sauvé, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Il en est digne, il a payé assez cher. Les restes des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoth, pas confondre avec Amos, hein, parce qu'il y a un T là, hein. C'est pas le fils d'Amos le prophète, fils d'Amoth le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait il est lépreux, et c'est Jotham qui régna à sa place. Alors Jotham vous conduit au deuxième roi, n'est-ce pas? Ésaïe régna, Ésaïe prophétisa sous le règne d'Ozias. Puis après, de Jotham. Alors, ce Jotham, vous avez son histoire dans le chapitre 27 du livre des Rois, versets 1 à 9. Jotham, verset 6, devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Il a quand même pris une leçon de son père. Et il s'est souvenu, et même quand il est devenu puissant, il est resté fidèle. Et le Seigneur l'a béni. Il a régné moins longtemps que son père, bien entendu. Mais peu importe les années que nous vivons, pourvu qu'elles soient à la gloire de Dieu. Mais hélas, le fils de Jotham, qui se trouve être Achaz, ce troisième roi, pendant le règne duquel Ésaïe a servi le Seigneur, Achaz n'a pas marché selon les voies du Seigneur. Verset 2 du chapitre 28, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père, il marcha dans les voies des rois d'Israël, du royaume du nord, des 10 tribus, et qui avait commencé sous le règne de Jéroboam, qui avait été suscité comme ennemi à Roboam, fils de Salomon, mais tout cela à cause des péchés même de Salomon. Alors, il marche d'après les voies des rois d'Israël, il brûle des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, il fit passer ses fils par le feu. Vous voyez, il tombe dans la plus grossière idolâtrie. Et alors, l'Éternel l'a livré entre les mains du roi de Syrie, et du roi d'Israël pendant un temps. Et ensuite de cela, après tout ce règne d'Achaz, qui a été un règne tellement triste, malgré qu'Ésaïe est allé poussé par le Seigneur pour lui parler, pour le reprendre, pour lui dire qu'il pouvait revenir dans le droit chemin, pour lui faire des promesses merveilleuses, Achaz a persévéré dans sa mauvaise voie, puis il est mort. Et alors, qu'est-ce qu'il a eu comme fils? Ézéchias. Alors, quand vous arrivez à Ézéchias, chapitre 29, vous voyez que malgré le si mauvais exemple que lui avait donné son père Achaz, devenu un idolâtre fini, eh bien, il était tellement idolâtre que même le peuple ne l'a pas mis dans le cimetière des rois à Achaz. Vous avez ça au verset 27. Akaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël, parce qu'il avait été tellement indigne. Alors, fallait bien, n'est-ce pas, que le peuple, puisque le peuple réagit, hein, que le peuple ait quand même compris qu'un roi pareil avait déshonoré le Seigneur. Mais c'est Ézéchias, son fils, qui va régner à sa place. Et de nouveau, il est parlé de la mère d'Ézéchias qui s'appelait Abijah. On peut avoir un mauvais mari et être une femme pieuse, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Mais vous voyez, ça saute. Hein? On appelle David son père parce qu'il était descendant de David, mais c'est bien loin son arrière-grand-père, et beaucoup plus loin encore. Bien, voilà quelque chose qui va vous donner. Vous lisez ce livre des rois, ces chapitres, et comme cela, vous trouvez quel est ce temps où Ésaïe a reçu son appel de la part du Seigneur et comment il a exécuté les ordres du Seigneur en ce temps-là. Ce qui nous fait compter que le ministère d'Ésaïe, commencé donc vers la mort de l'année de la mort de d'Ozias, et qui s'est poursuivi, semble-t-il, même un peu après la mort d'Ézéchias, qui a eu comme fils qui? Un homme exemplaire? Non, Manassé. Manassé, qui lui, alors, ayant un exemple remarquable sous les yeux, l'exemple d'Ézéchias, n'a pas suivi du tout les traces de son père. Vous voyez que ça ne se transmet pas la foi par le sang, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez un père pieux que vous serez un homme pieux, ou que vous avez une mère pieuse que vous serez une femme pieuse. Vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur, et c'est cela que vous devez cultiver. Nous devons être très sérieux là-dessus. Et à nos enfants, vous ne devez pas leur dire, oh, ben, tu sais, ton père est chrétien, ton père est serviteur de Dieu, tout ira bien pour vous. Au contraire, il faut leur dire, si tu ne te convertis pas, hein, c'est pas parce que moi j'ai servi le Seigneur que toi tu seras au ciel avec tes parents un jour. Il faut qu'ils passent eux aussi par la nouvelle naissance, parce que nos enfants, ils sont nés aussi de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui m'a affligé, moi, longtemps dans le milieu dans lequel je suis né, c'est que ces milieux ne se maintenait pas par l'apport de l'évangélisation d'âmes qui venaient du dehors, mais ces milieux, souvent, se maintenaient par l'apport des enfants de la chair. On était là, dans ce milieu, on recevait une éducation chrétienne dans ce milieu-là, on suivait les principes et les traditions de ce milieu-là. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de vraie conversion, mais bien souvent, et je l'ai entendu combien de fois dans mon ministère, que j'ai accompli très jeune dans ces milieux-là, on me disait, oh, vous savez, moi, j'ai pris ma place, parce que c'était ça, entrer dans cette communauté, on demandait sa place, j'ai pris ma place, parce que je ne peux pas faire autrement, je voulais que mon père finisse de me payer mes études. Puis après, eh bien, quand on avait fini ses études, on s'en allait dans le monde. Hein. De sorte que, vous voyez, s'il n'y avait pas une conversion réelle, on était de tradition chrétienne, peu importe la dénomination. Je me souviens toujours d'un jeune de la ville de Vevey. C'était un des premiers camps qu'on faisait en Suisse. C'était à Châtel-Saint-Denis. Et j'avais des entretiens un à un avec tous les campeurs. On faisait pas encore des camps mixtes. On était très sérieux de ce temps-là. C'était seulement des camps de garçons, puis après les camps de filles, etc. Bon. Alors, j'ai demandé à ce garçon qui jurait comme un papier, qui sacrait autant qu'un Canadien français quelquefois, et tout en étant un brave Suisse, je lui disais, mais tu viens d'où? Oh, mon père, il enseigne dans l'assemblée. Ah. Et depuis quand est-ce que tu es converti? Depuis toujours. J'ai dit, comme les gens qui sont en enfer. Alors, mais son père enseignait dans l'église, dans cette communauté. Et il pensait que ça allait de soi, qu'il était sauvé lui aussi. Oh, parce qu'on lui avait dit, toi et ta maison, etc. Bien sûr que c'est vrai, toi et ta maison, et j'y crois de tout mon cœur. C'est une promesse pour la foi des parents. Mais à nos enfants, nous devons leur dire, ce n'est pas parce que tu es né ici que tu es sauvé. Hein. C'est parce que tu auras une foi personnelle, parce que tu l'accepteras pour toi-même. Alors, remarquez, si vous lisez ce livre des rois, vous trouverez un grand enseignement au sujet de la famille. Ce qui peut se passer dans une famille, vous pouvez avoir un bon exemple et marcher d'une façon qui déshonore le Seigneur, puis vous pouvez avoir un très mauvais exemple et avoir une marche qui glorifie et qui honore le Seigneur. Et ce fut la marche d'Ézéchias. Mais on pense que, donc, dans toutes ces années, qui ferait que Ésaïe aurait eu un ministère qui aurait duré une soixantaine d'années. C'est encourageant, hein? Vous trouvez pas? Il n'a pas pris sa retraite. Parce qu'il a été appelé, il avait un certain âge déjà, on pense qu'il avait près de 30 ans. Et puis voilà, il aurait vécu presque jusqu'à 100 ans, 90 ans, disons à peu près. Et voilà qu'il aurait eu 60 ans de ministère. Et ce serait sur un ministère, si vous croyez à l'unicité du livre d'Ésaïe, eh bien, ce serait sur un ministère de 60 ans qu'il aurait écrit ces prophéties. De sorte que s'il y a des genres littéraires un peu différents, des styles différents, ce qui ferait dire qu'il y a deux ou trois Ésaïe, on peut très bien comprendre qu'en 60 années, le style d'un homme puisse changer. De sorte que tout ce qu'on a mis en avant pour détruire l'unité du livre d'Ésaïe, eh bien, tombe quand on prend la peine de réfléchir et de penser et qu'on n'a pas des préjugés au sujet de la prophétie. Parce que les vraies raisons, je vous les donnerai cet après-midi, pour lesquelles on nie l'unicité du livre d'Ésaïe, eh bien, ne sont pas des raisons vraiment valables et ne sont pas celles qu'on met toujours en avant. Revenons donc à cet Ésaïe, donc qui aurait eu un ministère d'une soixantaine d'années et qui, selon la tradition, je ne veux pas vous donner ça comme absolument authentique, mais selon la tradition, Ésaïe serait mort sous Manassé, donc le fils d'Ézéchias. Et ce serait Manassé qui l'aurait fait mourir. Il a commis des abominations, ce Manassé, contrairement à l'exemple de son père. Mais pour Manassé aussi, il y a eu grâce. À la fin de sa vie, il s'est vraiment repenti. Et il s'est tellement repenti qu'on pense que c'est dans sa repentance que le petit Josias, qui était son petit-fils, a été instruit par le père Manassé, le grand-père Manassé. C'est quand même très beau tout cela, que la grâce de Dieu intervient dans les familles. Mais Manassé serait donc l'homme qui aurait condamné à mort Ésaïe, parce qu'évidemment, le message d'Ésaïe le gênait, et il fallait le condamner bibliquement. Et vous savez, on trouve toujours des condamnations très bibliques quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Vous savez ce que Manassé aurait dit? Il a accusé Ésaïe d'être en contradiction avec Moïse. Et d'avoir dit, j'ai vu le Seigneur. Alors que Moïse a entendu le Seigneur lui dire, sur la montagne, tu ne pourras pas me voir, tu me verras par derrière. Hein? Ça c'est dans le 32, le 33, 34 du livre de l'Exode. Alors on aurait dit donc que Ésaïe était un hérétique, il a prétendu qu'il avait vu le Seigneur, alors que dans la loi de Moïse, il est dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, donc c'est un menteur, et on l'a pourchassé, il se serait enfui et se serait caché dans le tronc d'un arbre, et avec ceux qui sont venus en Israël, on les a vus, ces arbres creux, où un homme entier peut très bien se cacher, et Manassé aurait fait scier le tronc, et donc celui qui était dans le tronc aurait été scié. Et c'est pourquoi on pense, toujours selon la tradition, que dans le chapitre 11 des Hébreux, c'est d'Ésaïe qu'il est parlé quand il est dit qu'il y en a qui ont été sciés, n'est-ce pas? Et qui sont restés fidèles au Seigneur, même quand vous êtes sciés. C'est pas drôle. Si vous deviez mourir martyr, si Ésaïe est mort martyr, scié, dans un tronc d'arbre, c'est pas du tout drôle. Et il est resté fidèle. Mais ça, ce n'est pas l'Écriture qui le dit, c'est des textes qui semblent montrer qu'il y a eu des hommes, en effet, qui, pour le Seigneur, ont été sciés. Et selon le Talmud, selon la tradition juive, Ésaïe aurait été mis à mort par le roi Manassé. Ce serait une des iniquités de Manassé qui pourtant s'est converti sur la fin de sa vie, parce qu'il s'est repenti, il s'est réellement humilié, et Dieu a constaté cette humiliation, de sorte que nous ne devons désespérer de personne. Ministère donc de 60 ans environ, et les deux grands événements alors qu'il y a eu dans la vie d'Ésaïe, c'est la fin du royaume du Nord, du royaume d'Israël. C'est pendant le ministère d'Ésaïe que le royaume du Nord, avec comme capitale Samarie, a pris fin et que les Israélites de ces 10 tribus ont été déportés à l'étranger, et on n'en a plus parlé de la dispersion de ces 10 tribus. Samarie a été détruite dans les années 722 à 721 avant Jésus-Christ. C'est un des grands événements. Et Juda et Benjamin, qui formaient les deux autres tribus avec comme capitale Jérusalem, a vu ce qui était arrivé à Samarie. Et pourtant, dans le royaume du Nord, il y avait eu quel témoin de Dieu pour avertir les rois d'Israël, des 10 tribus? Vous vous souvenez des dieux grands géants? Enfin, il y en a eu plusieurs autres prophètes. Mais le temple était à Jérusalem, le temple de Salomon, hein, le lieu où Dieu avait promis sa présence et sa gloire. Mais dans la patrie des 10 tribus qui étaient tombées dans l'idolâtrie, qui avaient fait des veaux à Dan et à Bethel, et qui adoraient des veaux, Dieu a suscité pourtant des hommes pour exhorter le peuple. Combien s'appelait-il? Élie et Élisée en particulier. Il y a eu d'autres prophètes que vous voyez ici, des rois, des prophètes d'Israël, parmi les petits prophètes. Mais les grands prophètes qui ont été employés par Dieu dans le royaume païen, au fond, de Samarie, c'est Élie et Élisée, sans mépriser les autres dont nous avons l'histoire aussi dans l'Écriture. Mais malgré que Juda a assisté, a vu la décadence et le jugement qui est arrivé sur Samarie, Jérusalem se tranquillisait. Nous avons le temple de l'Éternel, il ne peut rien nous arriver. C'est arrivé à Samarie parce qu'eux, ils étaient idolâtres, ils avaient leur veau, mais à nous, il n'arrivera rien parce que nous avons la vraie tradition et nous avons le temple de l'Éternel. Mais comme sous le règne d'Akaz, ils arrivaient à commettre des abominations à Jérusalem, pire qu'en Samarie, eh bien, le Seigneur a permis qu'il y ait des épreuves, et il a permis que le roi de Syrie s'allie, avant qu'Israël ne soit détruit, avec le roi d'Israël, pour attaquer Akkad.
Et Akaz a passé par des moments très difficiles parce qu'il y a eu une coalition entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et vous avez tout cela dans ces chapitres d'Ésaïe. Maintenant, vous les avez lus, ces chapitres. Je parle de la vocation d'Ésaïe. Et je vous ferai tout de suite remarquer que sur lui, sur Ésaïe même, on n'a pas tellement de détails. C'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est sa prophétie. Ce sont les paroles qu'il a apportées. Mais sa personne, au fond, ce n'est pas la personne qui est tellement intéressante. Nous ne sommes pas des gens intéressants nous-mêmes. Ce qui est valable, c'est la parole qui sort de notre bouche, si c'est une parole prophétique. Si c'est la parole que nous avons reçue de Dieu et que nous vous transmettons avec une fidélité absolue et dans cette conviction que ce n'est pas nous-mêmes qui vous donnons ce message, mais que c'est le Seigneur qui s'adresse à vous. Et mon premier auditeur, c'est Dieu. Et un jour, je sais que j'aurai à répondre de l'enseignement que je vous ai donné. Et c'est une chose qui est extrêmement grave. Nous devons prendre conscience de ce qu'est la prophétie. D'Ésaïe, nous ne savons pas grand-chose. Sinon, est-ce qu'il était marié ou pas marié? Combien avait-il d'enfants? Ça ne vous intéresse pas. Trop vieux, c'est vrai. Mais il était marié, oui. Qu'est-ce qu'elle faisait sa femme? Ça ne m'intéresse pas. Ménagère, ingénieure domestique. Non, elle était prophétesse. Bon, alors lisez, vous trouverez. Et puis quoi encore? Combien est-ce qu'il avait d'enfants? Il en avait deux. Si vous voulez trouver les noms, vous les trouverez. Il avait deux enfants, puis il en prenait un avec lui quand il allait apporter un message. Ça vous arriverait aussi? C'est très beau, l'écriture, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'actuel. Alors, mangez cette parole, vivez de cette parole, et vous vivrez un peu avec Ésaïe, et vous apprendrez bien des leçons par lui. Mais ce n'est pas lui qui importe le plus. Sur son père, on ne sait rien. Il est dit qu'il était le fils d'Amos. Mais il ne nous a pas donné d'autres renseignements. C'est que ce n'est pas intéressant pour nous, parce que l'Écriture nous donne juste ce qui est nécessaire pour notre édification. Mais, comme je vous le disais, c'est le message d'Ésaïe qui est important. Et si je dis que c'est le plus grand des prophètes, c'est parce que c'est ce prophète qui nous parle le plus de qui? Du Seigneur. À un point qu'on a appelé le livre d'Ésaïe le cinquième évangile. Et que seulement par des textes que nous trouvons dans Ésaïe, on pourrait reconstituer une vie extrêmement exacte de Jésus sur la terre. On l'a appelé le cinquième évangile. Et je voudrais ici que vous lisiez au chapitre 12 de Jean, pour que vous puissiez tout de suite voir la correspondance qu'il y a entre le prophète Ésaïe et le Seigneur lui-même. Chapitre 12 de Jean, qui justifie Ésaïe malgré la condamnation de Manassé. Verset 37 du chapitre 12, Jean. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?
Ça, c'est un texte d'où? D'Ésaïe 53, celui qu'on appelle le deuxième Ésaïe. Il n'est pas dit, le deuxième Ésaïe a dit cela. Ésaïe, le prophète, a prononcé cette parole du Seigneur. Qui a cru? Ça, c'est dans la deuxième partie d'Ésaïe. C'est Ésaïe 53. Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe, lequel? Le même. Mais alors là, on dira le premier, parce que c'est dans la première partie. Parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Vous vous souvenez de ça ce matin? Il a endurci leur cœur, c'est le chapitre 6, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses quand? Lorsqu'il vit sa gloire. Alors, est-ce qu'il l'avait vu ou est-ce qu'il ne l'avait pas vu? Il l'avait vu, donc le chapitre 6 est vrai. Hein. Lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de qui? De lui. Donc, ce Seigneur que Ésaïe a vu dans l'Ancien Testament, c'est quel Seigneur? C'est le Seigneur Jésus avant son incarnation. C'est le Fils unique avant son incarnation. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et dans le premier chapitre de Jean, il est dit qu'on a vu sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique. Venu de la part du Père. Donc la divinité du Seigneur est déjà dans le prophète Ésaïe. Il était en forme de Dieu, il était Dieu, et puis il devint chair, la parole devint chair. Et nous vîmes sa gloire, verset 14 du chapitre 1er de l'évangile de Jean. Alors vous voyez comme tout se rassemble, comme tout est uni dans votre lecture et dans votre étude. C'est de la personne de Christ que le prophète Ésaïe va vous parler. Et c'est le Seigneur que vous allez rencontrer en faisant la lecture de ces 66 chapitres. C'est la clé de ce livre, le Seigneur lui-même. Maintenant, je veux croire que vous savez tous ce qu'est un prophète. Je ne vais pas prendre un dictionnaire pour vous donner, une définition d'un prophète. Je ne prends que ma Bible. Où trouvez-vous la définition d'un prophète? Qu'est-ce que c'est un prophète? Oui, mais prenons au début, dans l'Ancien Testament, hein. On va être à l'école de Dieu, pas même à l'école de Paul, à l'école de Dieu lui-même. Dieu parle à Moïse, au chapitre 3 de l'Exode. Vous savez que Moïse, étant devenu grand, a voulu délivrer son peuple, mais il est allé avec sa propre force. Il était sûr de lui parce qu'il venait de sortir des écoles égyptiennes, il était en pleine force, il avait 40 ans, il était instruit, il n'avait pas oublié son peuple, ce que sa mère lui avait donné alors qu'elle était sa nourrice, ce que sa mère lui avait enseigné aussi de son père, était resté dans son cœur. Mais voilà, il a devancé l'heure, il est allé avec sa propre force, puis il est devenu un assassin. Et il s'est enfui et il est devenu le berger de son beau-père. Et au bout de 40 ans, le Seigneur lui apparaît dans le buisson ardent. En Horeb. Et c'est la vision du buisson, Moïse, Moïse. Et maintenant que Moïse est appelé alors qu'il a 80 ans, et que Dieu lui dit qu'il l'a choisi pour aller auprès du Pharaon, pour lui dire « laisse aller mon peuple afin qu'il me serve », Moïse ne veut plus marcher. C'est toujours comme ça. Et le Seigneur doit insister auprès de lui. Prenez le chapitre 4 du livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'il dit, Moïse? Alors que Dieu lui dit, je te donnerai de la puissance même pour faire des miracles, etc. Verset 10, chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Comprenez pourquoi Dieu doit toujours toucher la bouche et la langue des prophètes. On est tous des gens avec la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, un verset merveilleux, ça. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il prend la responsabilité de tout. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. N'est pas moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et puis lui sera ta bouche, c'est-à-dire le prophète. Donc le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est par cette bouche-là que Dieu parle. Ce n'est pas nécessairement un homme qui prédit l'avenir, certes, il a aussi des visions sur l'avenir. Mais le prophète, d'après cette définition, est essentiellement la bouche de Dieu. Dieu lui parle, il met les paroles dans sa bouche et le prophète dit ce que Dieu lui a ordonné de dire. Ainsi Jésus était réellement prophète. Il disait toujours, ma doctrine n'est pas la mienne, je ne dis que ce que j'ai entendu dire par mon Père. C'est un des caractères du Seigneur Jésus. Il était prophète dans sa mission parmi les hommes. Voilà ce qu'est un prophète. Il y aurait encore d'autres passages que je pourrais vous citer. Le chapitre 12 du livre des Nombres nous donne aussi des enseignements sur ce qu'est un prophète et comment Dieu se révélait à lui. Mais passons. Donc un prophète, c'est un homme qui est appelé par Dieu pour entendre les paroles de sa bouche et les communiquer au peuple. Et alors, la prophétie, donc, n'est jamais une parole qui vient de notre inspiration. C'est pas moi qui réfléchis sur ce que je pourrais dire et qui trouve et qui finalement vous apporte la chose. Nous nous tenons devant Dieu pour recevoir son message. Et alors, puisque quelqu'un l'a cité, on peut souligner que le caractère vraiment qui fait reconnaître si c'est réellement un message prophétique, qui ne veut pas dire nécessairement une révélation de l'avenir, mais un message prophétique, un message qui vient du cœur de Dieu, il y a trois éléments, selon 1 Corinthiens 14, qui vous fait reconnaître l'authenticité du message. Un message prophétique, il doit d'abord édifier, ensuite il doit exhorter, et ensuite il doit consoler. Et vous pouvez être sûr, c'est pourquoi il est dit que vous devez rechercher le don de prophétie, parce que par ce don-là, vous apportez à un auditoire trois éléments dont on est sûr que dans l'auditoire, il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés, de croître, de grandir dans la connaissance de la parole et du Seigneur. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être exhortés pour mettre en pratique ce qu'ils connaissent déjà. C'est une exhortation. Et puis, il y a toujours dans un auditoire des personnes qui passent par l'épreuve et qui ont besoin de recevoir une vraie consolation. Eh bien, dans le livre d'Ésaïe, vous avez les trois éléments. Un enseignement, des exhortations morales et puis des consolations d'une tendresse infinie. Puisque c'est bien ce qui me fait dire que Dieu a un cœur de mère, parce que dans
la fin d'Ésaïe. Après pourtant qu'Ésaïe ait parlé des plus sévères jugements, il est dit comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés. Donc, le prophète, c'est comme Abraham, comme un ami de Dieu, auquel Dieu peut dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et Abraham reçoit la révélation de ce que Dieu va faire à Sodome et Gomorre, et cette révélation donne à Abraham l'occasion de prier. Quand on est en relation avec Dieu, on reçoit ses pensées, et la révélation de ses pensées va peut-être faire de nous des intercesseurs, des hommes qui seront utiles pour d'autres qui sont grandement menacés. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Et dans Jean 15, le Seigneur dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, et je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître toutes mes pensées, n'est-ce pas? Un serviteur ne sait pas ce que son maître va faire, mais l'ami connaît les pensées de son ami. Vous avez cela dans Jean 15, verset 15, et on pourrait aussi citer Amos 3, verset 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont donc des hommes de Dieu et qui connaissent le message du Seigneur et qui peuvent ainsi l'apporter. Leur message n'est pas le leur. Vous pouvez lire là les épîtres de Pierre. Et alors, pour revenir brièvement, parce que le temps passe, mais il est nécessaire quand même que nous contrôlions un peu avec vous ce qui a été vu dans le chapitre 6. Vous pouvez maintenant bien comprendre ce qui s'est passé pour Ésaïe quand il a eu sa vocation. Et je crois que nous pouvons tirer de cela un exemple qui est valable pour tous ceux qui sont appelés au service de Dieu. Reprenez le chapitre 6 d'Ésaïe. Qu'est-ce que vous avez dit? D'abord, Ésaïe, à un certain moment, à la mort du roi Ozias, dans cette année-là, il vit le Seigneur assis sur un trône haut élevé. Donc, il a une vision, je ne m'en vais pas m'allonger là-dessus, il a la vision de la gloire du Seigneur. C'est la première chose. Mais qu'est-ce que cette vision de la gloire du Seigneur lui donne à lui? La conscience de son péché. Et notez bien que si vous lisez le chapitre précédent, vous voyez que 6 fois, Ésaïe doit dire « malheur, 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 malheur ». Il prononce 6 malheurs sur les autres dans les 5 chapitres précédents. Et il doit les prononcer parce que c'est le Seigneur qui le lui a ordonné. Mais quand lui-même se trouve dans la présence du Seigneur, il prononce le 7e malheur. Mais sur qui? Sur lui-même. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. C'est un homme qui doit peut-être dire des vérités terribles aux autres. Mais s'il les dit, c'est parce qu'il a eu la révélation de son propre état de péché. Le malheur, il l'a dit d'abord sur lui-même. Et ce malheur, il l'a dit sur lui-même à quel moment? Au moment le plus exaltant de sa vie, quand il a vu la gloire de Dieu. Dans la connaissance de la gloire de Dieu, il apprend à se connaître. Et qu'est-ce qu'il voit surtout? Que ses lèvres sont impures. Et souvenez-vous de l'exemple du roi Ozias, hein, qui était devenu puissant et qui a voulu lui-même apporter l'encens à l'Éternel dans le temple. C'est le péché des lèvres. Alors, vous pourriez prendre maintenant une feuille de papier et voir la vocation d'Ésaïe et sa prédication dans le chapitre 1er. et vous verrez qu'il y a une correspondance constante parce que le chapitre premier que vous avez lu vous donne les éléments essentiels de ce qu'Ésaïe nous dit de sa vocation. Il a eu la vision de la gloire du Seigneur. Il entend les séraphins, ces êtres ailés de six ailes qui se couvrent le visage de leurs ailes, de leurs ailes ils volent et de deux autres ils se couvrent les pieds et ils crient l'un à l'autre, Saint, 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 et le Seigneur le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Alors, si j'abrège, je dirais ceci, la gloire de Dieu donc apporte à Ésaïe la conviction de son propre état de péché. Elle lui arrache sa confession. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis perdu. Est-ce que nous l'avons eu, cette conviction ? Je suis perdu. Pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce que devant Dieu, on s'est vu tel que l'on était. Je suis perdu. Et notre péché, on a vu que c'était ce péché de nos lèvres même. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite ? Dieu intervient et il purifie Ésaïe. Quand vous avez confessé votre péché, Dieu a pitié du cœur meurtri et contrit qui tremble à sa parole. Ésaïe 57, verset 15. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux. Il a résisté à Ozias, mais il fait grâce aux humbles. Le Dieu élevé et saint est avec celui qui tremble à sa parole. Et la purification, c'est pas lui-même qui se purifie, elle est faite par l'ange qui prend le tison de l'autel, le charbon, et qui lui purifie les lèvres. La purification ne peut avoir lieu que sur la base du sacrifice. Ça vient de l'autel, du sang de Christ. Et alors, l'âme purifiée est immédiatement prête à répondre à l'appel de Dieu. Il entend maintenant un appel. Il est sauvé, hein, il est purifié. Mais pourquoi faire ? Je suis sauvé, maintenant. Je suis sauvé. Non. Quand vous êtes sauvé, vous avez maintenant une oreille. Avant de vous donner une bouche, le Seigneur vous donne une oreille. Et avant de vous donner une bouche et une oreille, il vous donne un cœur. Et une fois qu'il vous a donné un cœur, il purifie vos lèvres. Puis maintenant vous entendez sa voix. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et qu'est-ce que vous voyez dans ce nous? C'est comme déjà une notion de la Trinité. Hein, qui ira pour nous? Faisons l'homme à notre image. Qui ira pour nous? Et vous avez alors la consécration. Qui ira pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? Me voici. Envoie-moi. Alors, vous avez la consécration, et puis ensuite, la mission. Va. Hein? C'est une parole du Seigneur. Va. C'est un ordre merveilleux. Voilà l'appel du Seigneur. Vous pouvez reprendre cela, et vous verrez comment les choses se passent. Vision de la gloire du Seigneur, on apprend à se connaître en le connaissant, on apprend notre véritable identité, on confesse notre péché, il nous purifie, et puis, étant purifiés, nous entendons sa voix, et nous nous consacrons à lui, qui enverrait, ben, me voici, je suis là pour toi maintenant, c'est la priorité, et puis, la parole du Seigneur va. C'est la mission. Mais le message, eh bien, et il est averti que ça n'ira pas tout seul, parce que le peuple est endurci. Ils auront des oreilles, ils entendront le message, mais ils ne voudront pas le comprendre. Leur cœur est endurci, et c'est un jugement. Et c'est arrivé quand le Seigneur lui-même a été donné au monde, quand il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où le Seigneur a été vu marchant et parlant sur la terre, les hommes n'ont pas cru en lui. Ils avaient dit que Dieu se montre, mais quand il s'est montré, on n'a pas cru en lui. On avait des yeux, mais on ne voyait pas. On avait des oreilles, on entendait des paroles ineffables sortir de la bouche du Seigneur, et on ne croyait pas. Le cœur qui avait pourtant tellement besoin d'amour pouvait recevoir cet amour, et il se fermait à cet amour, jusqu'au point de crucifier le Seigneur.
Eh bien, si vous vous souvenez de cela, je souligne qu'il devrait en être ainsi pour tout serviteur de Dieu. Vision personnelle du Sauveur, contact personnel avec le Seigneur de gloire, contrition, repentance qui est suivie de la mort à soi-même quotidienne, purification des lèvres, consécration, mission, sanctification. Et alors vous avez maintenant l'exemple de sa prédication, et c'est avec cela que nous terminons ce matin. Je reviens sur le chapitre premier, et je vous demande de faire vous-même la relation. On a vu déjà le premier verset, le temps où Ésaïe, et alors, maintenant qu'il a eu la vision de sa gloire, écoutez, cieux, terre, prête l'oreille, car le Seigneur parle. C'est quelque chose de fantastique. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, vous allez entendre Dieu parlant devant sa création. Ésaïe sait que toute la création est l'œuvre de Dieu. Et il a des yeux qui ont pu contempler la gloire du Seigneur dans la nature tout entière. La nature n'a pas renié le Créateur. Alors, Ésaïe prend à témoin, ou Dieu prend à témoin la création. Pour la création n'a pas renié son Créateur. Et comme on l'a vu au camp Mahanaïm cette année, les animaux n'ont pas renié leur Créateur. Les animaux n'ont pas péché. C'est pour ça qu'ils sont souvent protégés alors que les hommes sont détruits. Dieu a pitié des animaux. Les animaux n'ont pas péché. Et si nous sommes méchants avec les animaux, c'est nous qui serons frappés. Dieu aime les animaux. Alors, il prend un témoin, là. L'étude de la terre. Puis vous entendez, moi ça me bouleverse toujours, relisez ce chapitre. C'est comme un père qui dit, voilà, j'ai nourri et élevé des fils. Ils se sont rebellés contre moi. Puis il est triste, il dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître, Israël ne connaît rien. Et c'est tellement vrai, on est mieux prétendre descendre du singe que de dire qu'on a Dieu pour créateur. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où on va. On ne connaît rien. Le bœuf connaît cela. L'âne connaît cela. Et nous moquons du bœuf et de l'âne. Puis on n'a pas même l'intelligence de ces deux animaux. On ne sait rien. Et alors, malheur à la nation pécheresse. Vous avez cette nation dont l'iniquité a été d'abandonner l'Éternel. Et alors, quand on abandonne l'Éternel, on tombe dans la misère morale. Et c'est toute la description de cette misère morale. Vous avez dans les premiers versets, donc, une description de l'état du monde. Et le péché, c'est ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Puis, quel châtiment nouveau pourrais-je leur infliger? Quand vous multipliez vos révoltes, est-ce que vraiment je devrais encore vous châtier pour vous amener à comprendre? C'est pas la méthode de Dieu. Les méthodes de Dieu sont des méthodes douces. Il n'aime pas donner cours à sa colère. Il voudrait non pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Alors, Ésaïe a eu cette vision, il connaît l'appel de Dieu. Et il sait que Dieu ne voudrait pas châtier. Mais il apporte la vision qu'il a reçue. Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été pansées ni bandées avec de l'huile. Bien sûr, le bon samaritain n'était pas encore passé. C'est vrai, hein? Ni avec l'huile, ni avec le vin, ni avec le lévite et le sacrificateur au temps d'Ésaïe. Celui qui a pansé nos blessures, c'est le bon samaritain. C'est le Seigneur quand il est venu. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas tous ces préceptes qui pouvaient apporter la guérison à ce peuple d'Israël. On observait soi-disant la loi, on enseignait la loi, mais ces pansements-là, ça n'apportait rien. Et puis alors, misère morale et qui engendre la misère matérielle. Vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Souvenez-vous de l'attaque des Syriens qui s'étaient alliés avec le roi d'Israël. Et la fille de Sion, Jérusalem, était là comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée.
si l'Éternel des armées ne nous avait pas laissé un petit résidu, un faible reste. Alors vous voyez tout de suite qu'Ésaïe a eu la vision qu'il y aurait quand même un reste. Et dans le chapitre 6, si vous voyez ce que le Seigneur lui a dit, il doit dire ce qui va arriver à ce peuple qui va s'endurcir. Et Ésaïe dit au verset 11 du chapitre 6, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répond, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Est-ce qu'il faudra vraiment que l'endurcissement reste jusqu'à ce que Dieu permette qu'il y ait toutes les destructions possibles, toutes les catastrophes possibles, la guerre, et ça c'est aussi pour nous. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert, s'il y a encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, mais, et c'est ça qui est tellement beau, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà qu'il est tout de suite donné à Ésaïe la certitude qu'il y aura finalement une postérité qui renaîtra de ce peuple. Tout n'est pas fini pour Israël. Même après toutes ces destructions, mais ils vont passer par ces destructions à cause de leur endurcissement, le Seigneur donnera un temps de paix. Et vous avez cela dans la prédication d'Ésaïe du chapitre 1er. Et ensuite, depuis le verset 10 de ce chapitre 1er, vous l'avez lu, vous avez, après la description de l'état du monde, la description de l'état religieux, du monde religieux. Et ce monde religieux, vous avez remarqué, il est comparé au chef de Sodome. Qui avait été chef de Sodome? Lot, hein? Lot, un homme religieux, oui, qui tourmentait son âme juste, mais ce n'était pas sa place d'être là, Sodome. Parce qu'il n'avait aucune influence. Et quand vous voulez vous-même améliorer l'état du monde, eh bien, vous savez très bien que vous êtes voué à l'échec. L'état des gens religieux prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Vous voyez que Jérusalem est comparé à Sodome et Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier. Et c'est tout ce culte qui avait encore lieu que Dieu ne pouvait plus supporter. Et je me demande quelquefois, quand il voit nos cultes, même dans nos milieux évangéliques, s'il ne pense pas aussi un peu comme cela. Qu'est-ce qu'il y a? On vient dans les cultes, on se rassemble dans les assemblées, mais on vit toujours de la même manière. On ne veut pas changer. On sait qu'il faudrait réellement une conversion. Et qu'une conversion veut dire abandon de certaines choses, jugement d'une certaine situation, changement. On continue, mais on va à l'église, on va dans les assemblées, mais on ne change pas, on ne devient pas meilleur. Quand vous venez verset 12 pour vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. Toutes des choses qu'il a commandées, eh bien ces choses que Dieu a commandées, il peut les prendre en horreur. Relisez le livre d'Amos au chapitre 5. Vous trouverez le même enseignement. Je suis même fatigué du bruit de vos cantiques. Maintenant, c'est des cantiques, de la guitare et tout ce que vous voulez. Et est-ce qu'il y a en vous un témoignage authentique? C'est pas parce que vous chantez, c'est pas parce que vous jouez certains instruments, et vous savez que je les aime, ces instruments, c'est pas cela. Mais ne mettez jamais votre confiance dans ces choses-là, disant, moi, je suis utile à mon assemblée, je sers pour le chant, ou pour ceci, ou pour cela. Gardez-vous de cela, et dites au Seigneur, donne-moi un cœur, selon ton cœur. Parce que Dieu dit, j'ai en horreur tout cela. Mon âme et vos nouvelles lunes, vos fêtes, pourtant c'est Dieu qui les avait instituées, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Les réunions de prière, c'est des prières qui ne montent pas plus haut que le plafond. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. On dit, mais
on prie depuis si longtemps qu'on n'est pas exaucé.
Mais pourquoi? Mais parce que vos mains sont pleines de sang. Vous dites, mais moi, je n'ai pas tué.
Oui, mais tu n'aimes pas ton frère. Et celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier.
Non, jugeons-nous de ces choses-là. Alors, vous voyez, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Le service religieux est pur et sans tâche devant Dieu, c'est de visiter les veuves dans leur affliction. Il y a 9 points là que vous pouvez souligner dans le verset 16 et 17. Un programme de vie, mais d'une vie qui n'est pas un effort pour paraître bon, généreux vis-à-vis de notre prochain, mais qui est l'expression de notre relation avec Dieu. Si je suis en relation avec Dieu, j'ai découvert ce que je suis, je me connais moi-même maintenant, puis je connais aussi mon prochain que je peux aimer. Alors, versets 18 à 19, vous voyez que après avoir dû dépeindre et se faire dans tout le livre d'Ésaïe, vous aurez ce message. Vous avez un résumé, au fond, dans ce premier chapitre de toute la prophétie d'Ésaïe. C'est l'appel de la grâce. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est beau, ça. Vous voyez, vous ne devez pas avoir peur d'entendre la parole, même quand elle est sévère, parce que ce n'est jamais pour nous couler. C'est pour nous sortir de là. Si je ne vois pas mes péchés rouges comme le cramoisi, je trouve que c'est pas voyant. On ne le voit pas, les gens ne le voient pas. Alors, c'est rien. Alors je reste dans mon hypocrisie. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et vous... Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pas Ésaïe qui a parlé, c'est le Seigneur. Et il ne veut pas qu'on se moque de lui. Et bien que le Seigneur lui-même vous donne de désirer connaître pour vous-même ces choses et que vous vous laissiez enseigner et que cette vocation d'Ésaïe devienne aussi notre propre appel. Seigneur, nous voulons te demander de nous marquer ce matin par la vocation de ton prophète. Nous te faisons confiance et nous savons que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir produit tout son effet dans nos vies aujourd'hui.